Le Canadien reçoit ce soir au Centre Bell les Coyotes de l'Arizona et ensuite ce sera une pause de 10 jours, Jérémy Filosa.
Oui, absolument. Donc les Coyotes qui arrivent ici quand même sur une bonne lancée. Ils ont gagné 6 de leurs 8 derniers matchs. Du côté du Canadien de Montréal, eh bien on a décidé de laisser de côté Kenny Agostino pour ce match-là. Il sera remplacé par Matthew Pekka. J'ai rencontré ce matin à l'hôtel Le Ritz Alex Galchenyuk qui revient à Montréal pour la première fois depuis cette transaction qui l'envoyait en Arizona. En retour bien sûr de Max Domi. Et donc, je lui ai posé la question ce matin. Premièrement, il est très souriant, très heureux. Ça va bien quand même pour lui. Il a récolté 7 points dans ses 8 derniers matchs. Et je lui ai dit, si tu avais un petit conseil à donner à Jesperi Kotkaniemi, qui est un jeune joueur qui arrive aussi dans la Ligue très tôt, comme ça avait été le cas pour toi à 18 ans, quel genre de conseil aurais-tu? Et là, il m'a sorti une réflexion que lui avait fait à l'époque Tomáš Plekanec.
You know, I remember Plekanec said a couple years ago, I was saying that you're never as good as the media says, and you're never as bad as the media says, and I think that there's a little bit of truth in that.
Donc, pas toujours lire tout ce qui s'écrit. Il dit, si les médias disent que tu es très bon, t'es probablement pas aussi bon qu'ils le disent. Mais quand ils disent que t'es mauvais, t'es probablement pas aussi mauvais qu'ils le disent aussi. Donc, il a bien hâte de sauter sur la patinoire ce soir au Centre Bell.
Alors, on verra ça. Et à Edmonton, ça bouge. Les Oilers ont décidé de faire le ménage. Ils ont congédié leur directeur général, Peter Chiarelli.
Et Chiarelli, qui est arrivé là, il devait mettre de l'ordre dans cette organisation.
L'ancien des Bruins.
Absolument. Et qui avait quitté. Il est extrêmement convoité lorsqu'il a quitté l'organisation des Bruins de Boston. Mais ça pourrait faire très mal à l'avenir de Pete Chiarelli. Parce que là, si tu as une équipe qui cherche un directeur général, est-ce que tu te tournes vraiment vers Pete Chiarelli après tout ce qui s'est fait à Edmonton et la catastrophe qui s'ensuit? Je pense que des leçons à tirer du côté d'Edmonton, Paul, parce que pour avoir parlé à plusieurs très bons jeunes joueurs qui ont été repêchés tôt dans la Ligue nationale, l'ajustement qu'ils ont de la difficulté à faire souvent, c'est le niveau de compétition, le travail acharné qu'ils doivent mettre au travail parce qu'ils ont tellement dominé dans les ligues mineures. Et donc, quand tu arrives dans une équipe, je pense que c'est important de balancer un club avec de bons vétérans, des joueurs qui sont prêts, qui n'ont peut-être pas le talent, mais qui sont prêts à travailler très fort, très dur devant le filet dans les coins. Ça prend aussi des joueurs qui ont des mentalités ultra défensives et avec ce que les Oilers ont été capables de mettre ensemble dans les dernières années, c'est pas normal que cette équipe-là n'ait pas été capable de...
Absolument. Et ça donnait des arguments à ceux qui disent « C'est pas vrai que nécessairement on doit aller au fond de la cave, espérer obtenir des choix très haut placés de première ronde pour reconstruire. » Les Oilers n'arrêtent pas de reconstruire, mais ils construisent rien.
Oui. Ben écoutez, je pense que si tu es capable d'obtenir 2-3 bons joueurs de talent, c'est très bien. Mais ensuite de ça, il faut que le reste du groupe complète les autres tâches qu'on doit faire durant un match de 60 minutes. Donc, écoutez, je pense que si ça se passe à Edmonton, Paul, si c'était arrivé dans un marché non traditionnel de hockey, ce serait peut-être la fin de la franchise. Comme ça avait été le cas à Atlanta, où ça avait été mal géré, et vous avez vu ce qui s'est passé, le club finalement a déménagé à Winnipeg.
Alors, Larry Walker a obtenu quand même 54% des votes hier, mais ce n'était pas suffisant pour lui permettre d'accéder au temple de la renommée du baseball.
Et là, ce qui fait peur, Paul, c'est que les pronostics nous disaient environ 66%. C'est quand même 12% de moins. Ça fait 54%. Ça veut dire que l'année prochaine, dans sa dernière année d'éligibilité, l'ancien des Expos va avoir besoin de plus de 21% des votes d'augmentation pour entrer au temple. Donc, ça me fait peur un tout petit peu, ces chiffres-là. Et quand on regarde de l'autre côté, Mariano Rivera, qui est devenu le premier joueur de l'histoire du baseball majeur à entrer au Temple de la Renommée de façon unanime. C'est-à-dire que tous les journalistes qui ont voté ont déclaré « oui ». Mariano Rivera mérite d'aller au Temple de la Renommée. Là, les gens vont me dire, mais coudonc, il y a eu tellement de grands joueurs dans l'histoire du baseball, comment se fait-il qu'il est le premier? Mais il y avait beaucoup de journalistes qui avaient cette vieille mentalité de dire, moi, à la première année d'éligibilité, je ne vote pour personne. Je me souviens que Ken Griffey Jr., il y avait un journaliste qui n'avait pas voté pour lui. Oui. Alors, maintenant, il y a des journalistes plus jeunes qui arrivent, certains quittent. Donc, ça fait en sorte qu'on change un peu les mentalités et Mariano Rivera se retrouve à être le premier avec ce bel honneur.
Alors, on va parler maintenant de l'article du journaliste Vincent Brousseau-Pouliot dans la presse de ce matin.
Oui.
Le mois dernier, le groupe de gens d'affaires qui œuvre au retour des expos a publié une étude montrant que la capacité d'acheter des billets pour une éventuelle clientèle des nouveaux expos se situerait à peu près en milieu de peloton, quelque part au 18e rang,
oui,
sur 27 marchés de baseball. Mais là, il y a trois économistes qui ont été consultés par la presse qui disent qu'on a commis une erreur dans cette évaluation.
Écoutez, j'ai parlé à des gens à l'interne du groupe d'investisseurs qui tentent de ramener le baseball à Montréal. Et là, je les cite, là, je veux dire, c'est pas moi qui invente ça. Là. On me dit qu'on trouve ça absolument ridicule de penser qu'on aurait investi temps et argent sur une étude de ce type-là en oubliant qu'au Canada, bien, c'est pas le même dollar que celui des États-Unis. Donc, on indique qu'il y a une valeur, un endroit dans le household income, donc les revenus générés dans une famille, qu'on a décidé d'utiliser le chiffre en dollars américains parce qu'on se dit le client payant, oui, il gagne son argent en canadien, mais il va aussi acheter ses billets en argent canadien comme celui qui génère ses revenus aux États-Unis devra aussi acheter ses billets en dollars américains. Donc, selon eux, et c'est l'information qu'on me donne aussi, donc pour cette certaine mesure, selon nous, il y avait deux façons de présenter les faits et que les deux sont corrects. Nous en aurons choisi une plutôt que l'autre, mais de dire qu'on a oublié de convertir les dollars, pour eux, c'est ridicule, mais ça, encore une fois, c'est eux qui le disent.
Alors, c'est dommage, Miloš Raonic est éliminé. Il a joué en quart de finale contre le Français Lucas Pouille et il a été sorti en quatre manches.
Bien, c'est plate à dire, hein, mais pour moi, ça s'est peut-être jouer au premier set. Parce qu'il avait l'avance, Miloš Raonic. Il semblait avoir le vent dans les voiles. Il semblait gagner ce premier set-là. Finalement, s'est fait rattraper. Sa partie de 5-2 s'est fait rattraper. Il a perdu en bris d'égalité. Et ensuite de ça, malheureusement, il n'a pas été capable de s'en remettre. Donc, très dommage pour Miloš Raonic. À surveiller ce soir en quart de finale, Novak Djokovic face à Kei Nishikori. Et ça, c'est à partir de 23h.
Merci beaucoup, Jérémy.
Salut.
Au revoir.